11 novembre, c'est la fête de Saint-Martin, évêque de Tours, apôtre des Gaules. Petite remarque préalable. Nous connaissons la vie de Saint-Martin grâce à Sulpice Sévère, ami de Paulin de Nol, dont la cécité fut guérie par notre saint d'aujourd'hui. Saint-Martin de Tours, souvent appelé Martin le Miséricordieux, l'un des plus grands saints de la France, serait né en 316 ou 317 à Sabaria, ou Savaria, en Pannonie, aujourd'hui Szombathely, dans l'actuelle Hongrie. Mais il est mort à Cande, le 8 novembre 397. C'est l'un des saints les plus connus de la chrétienté, et en France, de nombreux villages portent son nom. Le père de Martin, originaire de Pavie en Italie, était un officier supérieur, chargé de l'administration de l'armée romaine. C'est peut-être pour cela que Martin porte ce nom, Martin signifiant « voué à Mars, le dieu de la guerre ». À cette époque, la chrétienté se développait beaucoup et Martin, enfant, eut certainement de nombreux contacts avec des chrétiens. Vers l'âge de 10 ans, Martin voulut se convertir au christianisme car il se sentait déjà attiré par le Christ. Le père de Martin vécut très mal cette conversion. Car militaire de haut niveau, il était voué au culte de l'empereur, et son fils aurait dû conserver ce culte. Aussi força-t-il Martin à entrer dans l'armée dès l'âge de 15 ans. Dès lors, Martin suivit son père, au gré des affectations de la garnison. Cependant, Martin, fils d'officier, bénéficiait du grade de sircitor avec une double solde. Le rôle de Martin, sircitor, était d'inspecter les postes de garde et d'assurer la surveillance de nuit de la garnison. Il possédait alors un esclave qu'il traitait comme son propre frère. Notons que Martin ne dépassera jamais le grade de sous-officier. Bientôt, Martin fut affecté en Gaule, et c'est là qu'eut lieu l'acte le plus spectaculaire et connu de Saint-Martin. Au cours d'une de ses rondes, un soir d'hiver 338 à Amiens, il partagea son manteau avec un déshérité transi de froid. Martin ne pouvait rien faire d'autre, car il n'avait déjà plus de solde, l'ayant généreusement distribué. La nuit suivante, le Christ lui apparut en songe avec ce même pan de manteau. Martin avait 18 ans. La tradition indique que le reste du manteau, appelé cape, sera placé plus tard à la vénération des fidèles dans une pièce dont le nom est à l'origine du mot chapelle. Capella en italien, chapel en anglais, capelle en allemand. On raconte aussi que la cape de Saint-Martin de Tours fut envoyée comme relique à la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle pour Charlemagne et qu'elle était emportée lors des batailles et portée en bannière. La cape de Saint-Martin serait aussi à l'origine du mot capet, nom de la dynastie des rois de France. Saint-Martin est vraiment le symbole de l'unité franque. Nous sommes en mars 354. C'est l'époque des grandes invasions germaniques et les barbares sont aux portes de l'Empire romain. Martin va donc participer à la campagne sur le Rhin contre les Alamans à Civitas Vangionium en Rhénanie. Ses convictions religieuses lui interdisant de verser le sang, il refusa de se battre, mais pour prouver qu'il n'était pas un lâche et qu'il croyait à la providence et à la protection divine, il proposa de servir de bouclier humain. Il fut enchaîné et exposé à l'ennemi, mais pour une raison inexpliquée, les barbares demandèrent la paix. Selon Sulpice Sévère, Martin servira encore 2 années dans l'armée romaine, puis il se fera baptiser à Pâques, toujours en garnison à Amiens. En 356, Martin, qui a 40 ans, peut quitter l'armée. Il se rend à Poitiers pour rejoindre Hilaire, évêque de la ville depuis 350, et se mettre à son service. Tous les deux, Hilaire et Martin, avaient le même âge et appartenaient à l'aristocratie. Mais le statut de Martin, ancien homme de guerre, l'empêchait de devenir prêtre. Alors, Hilaire forma Martin, qui deviendra simplement exorciste, la fonction d'exorciste étant alors considérée comme inférieure et humiliante. La chrétienté était, à cette époque, déchirée par divers courants de pensée antagonistes, dont l'arianisme, qui nie la divinité du Christ, contrairement aux trinitaires de l'Église romaine. Or, les Ariens étaient très influents auprès du pouvoir romain décadent, qui se cherchait une foi nouvelle. C'est ainsi qu'Hilaire, un trinitaire, fut victime de ses ennemis politiques et religieux. Tombé en disgrâce, il fut exilé. Martin fut alors averti en songe qu'il devait rejoindre ses parents afin de les convertir. Martin les rejoignit en Pannonie, en Hongrie, ou en Illyrie, on ne sait pas très bien. Il réussit à convertir sa mère, mais son père resta étranger à la foi de Martin, qui partit s'installer à Milan, en Italie, pour essayer de retrouver Hilaire, alors en exil. Chassé de Milan par les Ariens, Martin partit s'isoler sur l'île de Gallinaria, sur la côte Ligure. Enfin, en 360, Martin, qui avait 44 ans, put revenir en France pour rejoindre Hilaire libéré. Sur les conseils d'Hilaire, Martin s'installa comme ermite près de Poitiers. Des disciples étant venus le rejoindre, Martin fonda le monastère de Ligugé, premier monastère d'Occident, qui fut le principal lieu de l'activité d'évangélisation de saint Martin pendant 10 ans. C'est là qu'il accomplit ses premiers miracles, se faisant ainsi reconnaître par le peuple comme un saint homme. Puis Martin fut élu évêque de Tours. Comment cela put-il se faire? Comme Martin avait d'abord refusé l'épiscopat, les habitants de Tours l'enlevèrent et le proclamèrent évêque le 4 juillet 371 sans son consentement. Alors Martin se soumit, en pensant qu'il s'agissait là sans aucun doute de la volonté divine. Mais il ne modifia rien à son train de vie. Il créa près de Tours le monastère de Marmoutier, qui eut pour règle une extrême pauvreté, la mortification et la prière. Le monastère de Marmoutier était construit en bois. Martin vivait dans une cabane de bois dans laquelle, dit-on, il repoussait les apparitions diaboliques et conversait avec les anges et les saints. C'est cette vie faite de courage viril et militaire que Martin imposa à sa communauté. Marmoutier, centre de formation pour l'évangélisation des campagnes, compta rapidement 80 moines et devint la principale base de propagation du christianisme en Gaule. Martin fonda également les premières églises rurales de la Gaule, tout en sillonnant une partie de l'Europe, l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne. Martin, escorté de ses moines et de ses disciples, en grande partie pour des raisons de sécurité, parcourut les campagnes à pied ou à dos d'âne pour les évangéliser. En effet, à cette époque, les campagnes étaient toujours païennes. Aussi Martin faisait-il détruire les temples et les idoles. Là où il ne pouvait pas aller, il envoyait ses moines. On remplaçait les sanctuaires païens par des églises ou des ermitages. Comme rien de fâcheux ne leur arrivait, les païens, émerveillés, en conclurent que le vrai Dieu était celui des chrétiens. Il est impossible de passer ici sous silence l'épisode de la condamnation pour magie de Priscillien, l'évêque d'Avila. Martin de Tours était présent à Trèves, en 385, lorsque des évêques d'Espagne demandèrent à l'empereur Maxime la condamnation de Priscillien. Rejoint par Ambroise de Milan, Martin demanda la grâce pour les disciples de Priscillien et l'obtint. Pourtant, ce qui suit nous paraît assez obscur. En effet, Martin de Tours refusa dès lors de participer aux assemblées épiscopales, ce qui, avec ses efforts pour sauver de la mort Priscillien, le fit suspecter d'hérésie. Cependant, nous savons que le pape Cyrus s'élèvera contre les procédés de Maxime, et plus tard, l'empereur Théodose Ier déclara nulles les décisions de Maxime dans cette affaire. Nous sommes en 397. Martin est appelé à Cande pour réconcilier des clercs. Malgré son grand âge, 84 ans, Martin s'y rend. Son intervention est couronnée de succès, mais le lendemain, 8 novembre 397, épuisé par sa vie de soldat du Christ, Martin meurt à Cande sur un lit de cendres, comme mouraient les grands hommes. Immédiatement, disputé par les Poitevins et les Tourangeaux, le corps de Martin est subtilisé par ces derniers et rapidement reconduit par le fleuve, la Loire, jusqu'à Tours, où il fut enterré le 11 novembre 397.